la carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et jusqu'à 9h, temps universel, nous répondons à vos questions pour comprendre cette révolution islamique qui a renversé l'ordre géopolitique au Moyen-Orient et dont les effets se font encore sentir 40 ans plus tard. Thierry Coville reste à mes côtés évidemment pour répondre à vos questions, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Avant de repasser au standard, je vous propose de nous rendre à Téhéran, retrouver l'envoyé spécial de RFI. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Vous êtes non loin de la place Azadi, dans le centre de la capitale, où les autorités organisent en ce moment un grand rassemblement. Quelle est l'ambiance sur place, Nicolas?
Eh bien, le président iranien Hassan Rouhani s'exprime en ce moment même sur la tribune qui a été dressée sur cette place Azadi. Son discours est consacré pour l'instant aux acquis de cette révolution de 1979, dont l'Iran célèbre aujourd'hui l'anniversaire. La pluie qui tombe sur Téhéran ce matin n'a pas empêché la foule de se presser sur cette place. Beaucoup de familles, parfois avec de très jeunes enfants dans les poussettes, des enfants et des adolescents portent les couleurs de l'Iran peintes sur le visage. Alors ce matin, c'est vraiment le point culminant des manifestations marquant l'anniversaire de la révolution, puisque le 11 février 1979, c'est le jour où les opposants au Shah d'Iran ont réellement pris le contrôle du pays. C'était 10 jours après le retour à Téhéran de l'ayatollah Khomeini, qui allait devenir le premier guide suprême de la République islamique. Ce matin, on entend beaucoup de slogans et de louanges adressés à cet ayatollah Khomeini et aussi à son successeur, l'ayatollah Khamenei, l'actuel guide suprême de l'Iran. Cet anniversaire, dans les discours, dans les slogans et aussi dans les paroles des manifestants, c'est aussi l'occasion de fustiger, de critiquer les ennemis de l'Iran, en tête desquels Israël, les États-Unis, et tout ceci dans un contexte particulier, puisque, vous le savez, il y a quelques mois, l'administration américaine a récemment rétabli les sanctions visant l'Iran et qui touchent fortement son économie et sa population.
On aura l'occasion évidemment d'en parler avec les auditeurs et Thierry Coville. Merci beaucoup Nicolas Falaise pour ce direct de la place d'Azadi où s'exprime en ce moment même le président Rouhani. Il vient de tenir ses propos. Le complot américain contre la République islamique voué à l'échec. Voilà ce qu'il vient de s'exclamer auprès de cette foule. Il y a beaucoup de monde. Thierry Coville, place Azadi. Et en même temps, on a une partie de la population qui ne se sent pas concernée par ces festivités.
Mais comme alors il y a plusieurs choses. Bon, je pense qu'il y a une partie de la population qui soutient par nationalisme le système, mais qui va pas participer à ces grandes manifestations. On va dire la classe moyenne, bourgeoise, éduquée des grandes villes. Bon, il y a également un contexte économique dont on a parlé. Effectivement, il y a plutôt de la colère actuellement en Iran contre notamment le gouvernement, parce que quelque part toute la stratégie de Rouhani, c'était de négocier cet accord sur le nucléaire et d'améliorer la situation économique. Là, les gens quelque part demandent des comptes. Donc effectivement, on va dire les gens qui sont sur cette place ce matin, c'est vraiment les fidèles du système.
Parlons de la jeunesse. Alseni, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Vous êtes à Labé en Guinée, nous vous écoutons.
Dans quelle mesure la jeunesse iranienne, qui n'a pas connu la révolution de 1979, peut-elle compromettre aujourd'hui l'avenir du régime?
Oui. Alors cette jeunesse qui n'a pas connu la révolution de 79, elle est majoritaire aujourd'hui en Iran. C'est une jeunesse qui aspire à plus de liberté, plus d'indépendance, vous le disiez à l'instant. Est-ce que ces jeunes peuvent renverser le régime?
Non, je pense qu'on vient d'en parler. C'est ça qui est intéressant en Iran, c'est qu'on a une modernisation des mentalités, mais la modernisation, c'est dans tout. C'est aussi dans le comportement. Donc les jeunes vont rencontrer, alors souvent ce qui est amusant, ça vient dans la conversation, c'est Mohen Relob Nakardi. Bon, c'est pas nous les responsables de la révolution. Bon, ils sont dans ce système, il faut qu'ils s'y adaptent. On l'a vu, ils ont une mentalité de plus en plus moderne. Ils veulent le changement, mais de manière détournée. Alors, c'est un peu la culture iranienne, en allant voter. Ils sont très nationalistes, ils veulent pas non plus que l'Iran devienne comme l'Irak ou la Syrie. Donc il y a l'idée de changer les choses, mais changer les choses graduellement, changer les choses de manière pacifique.
En même temps, on a vu cette jeunesse manifester il y a quelques années, manifester l'année dernière également. Ça s'arrête. La contestation se limite aux manifestations.
Alors attention, en 2009, c'était une contestation très profonde et à mon avis démocratique. En 2009, c'était les gens demandaient où sont passées leurs voix. Je veux dire, c'est fantastique dans le monde d'avoir des gens qui vont voter pour le changement et ils sont pas contents. Donc c'était vraiment démocratique. L'année dernière, fin 2017-2018, c'est vraiment les questions économiques, sociales. Oui. C'est les plus pauvres, ceux qui vont jamais voter. Il y a quand même 30% d'abstention en Iran. Donc ces gens ne croient pas au système et ils protestaient dans les petites villes, contre les situations économiques dont on a parlé.
Vous parlez des plus pauvres, Thierry Coville. Une grande majorité des jeunes est au chômage aujourd'hui en Iran.
Ah, c'est le problème numéro un du pays. Oui. C'est le paradoxe de l'Iran, il y a 900 000 nouveaux diplômés chaque année, master, doctorat si vous voulez, de très bons niveaux. Les ingénieurs iraniens, ils se retrouvent au MIT, aux États-Unis, etc. Ils sont de très 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 bonne qualité. Le problème, c'est que l'économie iranienne, qui est dominée par le secteur public à 80%, qui est une économie encore d'un pays, on va dire, en voie de développement, n'a pas les moyens d'assurer un emploi à tous ces jeunes bien formés.
33 9 693 693 70, nous répondons à vos questions. Yaya, bonjour.
Bonjour, Juan, et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons avec Thierry Coville.
Juan, j'aimerais savoir dans quelle mesure les sanctions occidentales ont été un frein pour l'économie iranienne.
Alors, l'Iran qui a vécu des décennies sous sanctions internationales de l'ONU, des États-Unis, de l'Union européenne, forcément, cela a impacté le développement du pays.
Oui, alors je pense que le critère qu'on peut utiliser, c'est la faible capacité de l'Iran à attirer des investissements étrangers. C'était notamment la stratégie de Rouhani. Avec l'accord sur le nucléaire, son objectif, c'était d'attirer l'investissement étranger pour moderniser l'appareil productif du pays. Ça marche pas, et ça, en plus, ça va pas marcher avec le retour des sanctions américaines. D'un autre côté, le fait que l'Iran soit sous sanctions, et on a vu ça dans d'autres pays, ça favorisait la naissance quand même d'une industrie nationale. Donc on voit l'Iran qui a fait des progrès dans un certain nombre de secteurs industriels, même en province, si vous voulez, ça qui est intéressant en Iran, il y a un véritable tissu industriel qui a quelque part profité parce qu'ils n'avaient pas le choix, et il fallait qu'ils développent leur propre industrie et qu'ils soient capables d'exporter. Donc ça a des effets négatifs et positifs.
Oui. Mais enfin, quand vous avez votre ce qui permet de remplir les caisses de l'État, à savoir le pétrole, lorsque le pétrole est sanctionné à l'échelle internationale, c'est compliqué.
Alors oui, mais ça, c'est le retour des sanctions américaines. Avant le retour des sanctions américaines et la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire, l'Iran pouvait de nouveau exporter tout son pétrole. Donc effectivement, depuis les sanctions américaines, les exportations pétrolières de l'Iran sont passées de 2,3 millions de barils jour à 1,3 million de barils jour à cause essentiellement des sanctions américaines.
Ouais. À entendre les autorités iraniennes, si le pays se porte mal économiquement, c'est à cause des sanctions internationales. Est-ce que elles-mêmes, ces autorités, n'ont pas à se remettre en cause également dans la gestion du pays?
Ah oui, mais c'est fait tous les jours en Iran. Actuellement, vous allez en Iran, mais il n'y a pas un débat à la télé où le gouvernement. Ça qui est intéressant en Iran, il y a quelque part une certaine liberté. Le gouvernement se fait enfoncer sur sa politique économique parce que les gens sont pas contents, je vous l'ai dit. Donc la question du chômage, des jeunes diplômés, la question de l'inflation, la question de la corruption revient sans arrêt dans les débats en Iran. Par contre, on peut pas nier non plus que l'aggravement des difficultés depuis quelques mois, le fait que l'inflation soit passée de moins de 10% à 35% aujourd'hui, le fait que l'Iran soit tombé en récession, le fait qu'il y a un embargo pétrolier, c'est quand même essentiellement du fait des sanctions américaines.
Ouais. Repassons au standard. Marius, c'est là. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Juan Gomez.
Bienvenue. Très bien. Merci de nous appeler d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons.
Oui, des manifestations ont eu en Iran début du mois de janvier pour critiquer la situation économique. Ce n'est pas la première fois que la population sort dans la rue pour exprimer son mécontentement. Alors, je voudrais savoir quelles mesures le président Rouhani compte-t-il prendre pour apaiser les tensions.
Alors, est-ce que le président Rouhani a une marge de manœuvre suffisamment importante pour effectivement essayer de contenter cette colère des manifestants qui réclament du travail, qui réclament un pouvoir d'achat plus important, qui réclament également plus de liberté?
Non, pas du tout, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis, il y a déjà eu ces manifestations. Donc fin 2017, début 2018. Et depuis, les États-Unis ont réimposé des sanctions. Donc la situation économique en Iran s'est aggravée, donc a aggravé ces difficultés qui existaient déjà. Donc les recettes, si vous voulez, les exportations de pétrole de l'Iran, ça représente 40% des recettes budgétaires du gouvernement. On vient de voir qu'elles ont diminué de 40%. Donc le gouvernement n'a pas les moyens Si vous voulez, l'objectif actuellement du gouvernement, c'est de tenir, d'arriver à faire tourner la machine en gros, mais il a absolument pas les moyens de s'attaquer aux problèmes de fond de l'économie iranienne, qui sont le chômage, et qui sont, bon, également la question de la corruption, on vient d'en parler, c'est plus compliqué, le manque de confiance de la population dans les institutions.
Les autorités peuvent compter sur des pays alliés, des pays amis pour renflouer les caisses de l'État?
Ce qui est important pour l'Iran, c'est d'exporter son pétrole. Les deux pays qui jouent le jeu et qui sauvent quelque part l'accord, on en reparlera, c'est la Chine et l'Inde, qui continuent à acheter le pétrole iranien. Le pays qui joue pas le jeu, malheureusement, c'est l'Europe, qui a arrêté d'acheter du pétrole iranien. Donc on va dire, effectivement, l'Iran est en train de compter véritablement ses alliés, qui sont ses vrais alliés.
Oui, l'Europe qui arrête d'acheter du pétrole iranien pour ne pas se mettre à dos Donald Trump. Donald Trump qui a dit en substance, soit vous faites des affaires avec nous les Américains, soit vous faites des affaires avec les Iraniens, mais pas avec les deux.
C'est pas l'Europe, c'est les grandes entreprises européennes. Effectivement, les Américains leur mettent une énorme pression en leur disant, vous travaillez avec l'Iran, vous n'avez plus le droit de travailler avec les Américains. Alors un groupe comme Total ou comme Eni en Italie, ils ont pas vraiment le choix. Par contre, les autorités politiques européennes veulent que l'Iran reste dans l'accord et continuent de proclamer leur soutien à l'accord, mais concrètement, ils ne font pas grand-chose.
Mukhtar, bonjour.
Bonjour, monsieur Wan, et bonjour à tous les auditeurs de la Perfil Actualité.
Merci, nous vous écoutons.
Bonjour à monsieur Téricoville également.
Bonjour.
Il vous écoute.
Ok, j'aimerais savoir, hormis la paralysie, existe-t-il des intérêts économiques qui opposent la République islamique d'Iran et le Royaume d'Arabie Saoudite?
Alors, l'Iran, l'Arabie Saoudite qui se disputent le leadership régional sur fond de divisions religieuses, y a-t-il derrière cette bataille des intérêts géopolitiques, oui, mais des intérêts économiques?
Oui, déjà, dans la question, je dirais, l'opposition entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est pas une question de religion, contrairement à ce qu'on entend malheureusement, l'opposition caricaturale entre les chiites et les sunnites, c'est l'opposition des deux poids lourds régionaux, si vous voulez. Alors l'Arabie saoudite utilise instrumentalise la religion pour son pouvoir politique, mais à la base, c'est une rivalité géopolitique.
Ouais. Et l'Iran n'instrumentalise pas la religion pour s'imposer dans la région.
Si vous voulez, l'Iran, quand même, faut le rappeler, ils ont des bonnes relations avec l'Arménie qui est chrétienne, ils ont des bonnes relations avec le Hamas qui est sunnite, ils sont beaucoup plus, quelque part, pragmatiques, et c'est ça qui fait leur force, hein. Ils sont très pragmatiques dans leurs relations étrangères dans la région. Mais effectivement, je dis pas qu'ils s'appuient pas sur les chiites, mais si vous voulez, c'est pas le facteur principal pour eux.
Cette rivalité, donc, dont nous parlons, est-ce qu'elle cache aussi des intérêts économiques?
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'OPEP. C'est deux grands pays pétroliers, hein, qui font partie de l'OPEP. Et donc, on voit très bien ce qui est en train de se passer, si vous voulez. C'est que les États-Unis mettent la pression sur l'Iran, donc veulent réduire les exportations pétrolières de l'Iran. Ce qu'ils sont en train de faire. Mais le problème, c'est que la baisse de ces exportations iraniennes pourrait avoir un impact sur le marché pétrolier mondial. Donc l'Arabie saoudite, en coopération avec les États-Unis, est en train d'augmenter sa production pétrolière pour éviter que l'impact des sanctions américaines...
Pour compenser le manque production pétrolière iranienne sur le marché international.
Exactement.
Oui. Il n'y a que le pétrole alors?
C'est deux grands pays exportateurs de pétrole. Hein, 80% des exportations de l'Iran, c'est du pétrole. 90% des exportations de l'Arabie saoudite, c'est du pétrole.
Ouais. On repasse au standard. Peut-on me dire qui nous avons? Serge, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous êtes au Cameroun, soyez le bienvenu.
Merci et heureux de vous accueillir à Chang.
À Chang, très bien, merci bien.
Bien, en effet Juan, la situation sécuritaire en Iran et dans son voisinage est particulièrement préoccupante. Qu'en est-il de la stratégie sécuritaire de l'Iran lorsqu'on sait que ce pays est régulièrement accusé de soutenir les rebelles houthis qui s'attaquent à l'Arabie Saoudite?
Alors, les Roubelouti, là, on est au Yémen, Tiréqueville, on voit bien que sur place, sur le terrain, saoudiens, iraniens se livrent à une guerre par procuration. On a déjà eu l'occasion de répondre à de nombreuses questions sur la situation au Yémen. Mais que fait l'Iran au Yémen?
Oui, je pense qu'il y a, si vous voulez, d'abord, le conflit au Yémen, c'est pas l'Iran qui l'a créé, si vous voulez, vous le savez bien. Ça existe, les conflits entre les zaïdites, qui sont proches des chiites et le gouvernement central au Yémen, ça existe depuis, je sais pas moi, 50 ans au moins. Donc, par contre, l'Iran a bâti une alliance avec un groupe des zaïdites, donc des chiites yéménites qui s'appellent les Houthis, donc une alliance idéologique. Hein, donc, ils les soutiennent politiquement, c'est vrai. Quelle est la hauteur de leur soutien militaire? C'est là où je suis un peu sceptique, si vous voulez. Entre eux, il faut se rappeler quand même que c'est l'Arabie Saoudite qui commence cette guerre, hein. Et donc, entre le soutien, si vous voulez, l'armement dont bénéficie quand même la coalition qui attaque les Houthis, On le voit sur le terrain, hein, les Houthis. Et le soutien dont on parle de l'Iran Houthi, je pense qu'il n'y a pas photo. Je pense que l'Iran soutient sans doute militairement les Houthis, parce qu'il y a une alliance idéologique, mais c'est rien du tout à côté de l'armement qui est en face.
Et en intervenant en Iran, au Yémen, l'Iran cherche à préserver sa sécurité, ou c'est juste une question de leadership régional?
Alors, je pense qu'ils ont, dans une stratégie, il y a deux éléments. Bon, déjà, ils sont très inquiets, ils font très attention à ce qui se passe dans la région, parce que l'expérience leur a montré que s'ils faisaient pas attention à ce qui se passe dans la région, il faut se rappeler les deux grands conflits que l'Iran a subis ces 40 dernières années. Mm-hmm. C'est l'attaque de Saddam Hussein de l'Irak contre l'Iran, hein,
Dans
les années 80. Et puis, deuxièmement, on l'a peut-être oublié, nous, en France, mais l'État islamique est arrivé à déferler en partant de Syrie, est arrivé en Irak et est arrivé pas loin des frontières iraniennes. Donc, ce qu'on entend en Iran actuellement, c'est qu'on peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans la région, et notamment du fait de ce risque de mouvements extrémistes sunnites qui peuvent vraiment aller, qui eux, veulent en gros assassiner les chiites. Donc, on peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans la région.
Ouais, on a également reçu des questions sur l'Iran et le Hezbollah, sur la présence de l'Iran en Syrie et la guerre que se livrent les Iraniens avec les Israéliens. On a peu de temps, il nous reste 4 minutes, donc je m'excuse auprès de ces auditeurs. Il y a un sujet qui revient souvent dans les commentaires et les réactions des auditeurs, c'est l'arsenal nucléaire iranien. Joachim, bonjour.
Oui, bonjour Rohan, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Nous vous écoutons.
Oui, ma question c'est de savoir, maintenant que les États-Unis se sont retirés de l'accord avec l'Iran, qu'en est-il des promesses de l'Iran de ne pas mettre au point son arsenal nucléaire? Ouais, c'est un peu ça.
Bah, c'est une très bonne question. Sommes-nous sûrs, sommes-nous certains, Thierry Coville, que l'Iran a stoppé son programme nucléaire?
Oui, ça, enfin, si vous voulez, l'accord sur le nucléaire qui a été signé entre les 5+1, donc les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne et l'Iran, en juillet 2015, garantit que l'Iran a un programme nucléaire qui soit civil. Ça a été contrôlé 12 à 13 fois par l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a des caméras, qui va sur place, etc. Donc l'Iran respecte ce traité qui garantit que l'Iran continue à avoir un programme nucléaire pacifique, tout à fait.
Mais lorsque les autorités disent, depuis le retrait américain de cet accord, que Téhéran pourrait reprendre ses activités d'enrichissement d'uranium...
Faut-il les croire? Oui, faut se mettre à leur place. Ils ont signé cet accord, donc ils ont réduit la capacité de leur programme nucléaire pour qu'ils donnent des garanties qu'ils restent civils, en échange d'une levée des sanctions. Mmh. Donc ils voient les sanctions américaines revenir, la situation économique s'aggraver, notamment les durs en Iran disent... Du coup, nous, on respecte l'accord et on n'a pas les bénéfices qu'on attendait. Donc, il y a des durs en Iran qui demandent une sortie de l'accord, ce qui serait vraiment très déstabilisant pour la région.
Tunkara, bonjour.
Bonjour RFI.
Bienvenue, nous vous écoutons, vous êtes à Bamako.
Oui, merci Juan, merci Tchirkoville. Merci, j'ai une question. Je voudrais savoir pourquoi l'Iran n'a pas droit à l'arme nucléaire alors que les Occidentaux la possèdent.
Ah, alors ça c'est une question, Thierry Coville, qui est arrivée des dizaines de fois ces derniers jours pour préparer cette émission. Que peut-on répondre à Tankara?
Non, c'est une très bonne question. L'Iran est signataire du TNP, traité de non-prolifération.
Nucléaire,
donc il fait en sorte que les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont le droit d'avoir l'arme nucléaire. Donc, voilà, c'est dans le traité. Bon, ils doivent réduire l'arsenal, ce qu'ils n'ont pas vraiment fait. Et en échange, les autres pays qui signent ce traité ont droit au nucléaire civil. Donc l'Iran est signataire ce traité. Et c'était tout l'enjeu de l'accord sur le nucléaire de juillet 2015 qui vise à donner encore plus de garanties que d'autres signataires du TNP que l'Iran restera dans le cadre du nucléaire civil.
Ouais, c'est donc en signant cet accord, l'Iran s'engage à ne pas posséder d'armes nucléaires. Donc l'Iran doit respecter
Il s'engageait déjà avant, mais on va dire que cet accord donne encore plus de moyens de contrôle, notamment, dont on a parlé, encore plus de garanties que l'Iran restera effectivement dans le cadre nucléaire civil.
Une dernière question, en à peine une minute. Bonjour, Laïci.
Oui, bonjour, monsieur Juan Gomez.
On vous écoute.
Oui, ma question est de savoir quelles sont les relations diplomatiques qui existent entre l'État islamique iranien et l'Afrique.
Thierry Coville.
Alors, l'Iran a pris conscience, notamment sous Ahmadinejad, qu'il était important de diversifier ses relations diplomatiques du fait de ses tensions avec les États-Unis. Donc, on voit très bien que maintenant, il y a des voyages, il y a eu le voyage d'Ahmadinejad, ministre des Affaires étrangères iranien, qui vont en Afrique. Le problème que je sens, c'est que c'est comme un petit peu ce qui s'était passé pour l'Iran avec l'Asie centrale dans les années 90. L'Iran est toujours perçu comme, effectivement, d'où la question, une république islamique qui vise à imposer son modèle. Donc je pensais à ce qui s'est passé au Nigeria récemment, où l'Iran est vu comme éventuellement soutenant les mouvements chiites locaux. Donc il y a toujours cette appréhension de la part des pays africains. Je pense que c'est aussi le problème de l'Iran, qui doit changer son image et montrer qu'ils sont prêts à avoir des relations pragmatiques et normales avec tout le monde.
Et pour en savoir plus sur ces relations, je vous invite vivement à vous rendre sur le site internet de RFI avec un excellent article signé Sabine Sessou, « Iran, des relations encore timides avec l'Afrique ». C'est donc à consulter.